Bien, on fait l'histoire de l'Église ce soir. On va essayer de terminer le sixième siècle. C'est bien ça, oui. Et donc, on avait vu la dernière fois ce qui concernait un certain nombre de pratiques chrétiennes, notamment un caractère superstitieux que nous avions appelé la mythologie chrétienne. Ce soir, nous allons voir différents sujets qui tournent autour justement de la situation de l'Église à la fin du VIe siècle. Le premier de ces points concerne les états du pape. Le pape, à partir du moment où les barbares s'étaient installés en Europe, avaient déferlé dans l'Europe, s'était non seulement présenté comme un défenseur de la culture et de la spiritualité de l'Occident, mais à différentes reprises, nous l'avons vu, il avait été amené à intervenir sur le plan militaire, notamment lorsque Rome avait été menacée et assiégée, sur le plan militaire, et c'est son corollaire également, le plan politique. Par la suite, il y avait eu des accords qui avaient été adoptés, notamment avec les Lombards, qui avaient occupé cette région de l'Italie, et ensuite, une tentative de courte durée de l'Empire de se réinstaller en Europe et notamment en Italie. Et pendant quelques dizaines d'années, Rome était repassée sous la domination de l'Empire qui désormais avait sa capitale à Constantinople. Mais l'Empire a été rapidement incapable de se maintenir en Italie, si bien que les Lombards sont à nouveau revenus et ont étendu leur hégémonie sur toute cette région. Les Lombards, bien que ouverts au christianisme, n'en étaient pas moins des gens qui étaient des gens cruels et barbares, en sorte que le joug lombard, très vite, est à nouveau apparu comme intolérable pour la situation, pour la population locale. Tant et si bien que cette dernière s'est à nouveau tournée vers la papauté, qui avait à deux reprises déjà tenté de secouer le joug des barbares, et le pape a été amené, donc Grégoire, a été amené à intervenir directement dans les affaires temporelles de l'Italie. Et c'est ainsi que des campagnes ont été entreprises pour desserrer le joug lombard de Rome, et non seulement de Rome, mais aussi d'une fraction plus ou moins importante de l'Italie. C'est ainsi que se sont constitués ce que l'on appelle pendant toute la durée du Moyen-Âge et jusqu'à 1870, les États pontificaux. La papauté, à partir de ce moment-là, est devenue non seulement une puissance spirituelle, la plus grande puissance spirituelle de l'Europe, mais également une puissance politique et temporelle. Et de cette situation qu'elle n'avait pas au préalable tellement cherché, la papauté s'est rapidement accommodée. Elle y a vu en effet un certain nombre d'avantages. Le premier, c'était celui de pouvoir ainsi parler d'égal à égal avec les différents États européens qui allaient surgir tout au long du Moyen-Âge. Et dans la mesure où ces différents États chercher à assurer leur hégémonie sur l'ensemble de l'Europe, la papauté, ayant elle-même des États, pouvait intervenir dans cette compétition, et ce d'autant qu'elle avait des atouts que les autres n'avaient pas, notamment celui d'avoir derrière elle une puissance morale et spirituelle qui faisait que, tout naturellement, c'était vers elle qu'allait se tourner les regards de tous ceux qui cherchaient une véritable autorité. Et c'est ainsi que nous allons voir petit à petit émerger au long du Moyen Âge une alliance entre le trône et l'autel, et par un jeu subtil d'alliances tant spirituelles que politiques, la papauté va constituer un pouvoir qui sera le fruit d'une alliance avec justement les Germains, les barbares qui avaient déferlé dans l'Europe. Et c'est ainsi que commence une phase nouvelle de l'histoire de l'Église. Après, on pourrait dire sa première phase juive, puis ensuite la deuxième phase hellénistique, disons, où ce qui était prépondérant dans l'Église, c'était l'influence de l'hellénisme, la philosophie de la culture grecque, même si en Occident, cela était, c'était plus latin, mais c'était quand même l'héritage, n'est-ce pas, de la culture gréco-latine. Maintenant, on y vient à une troisième phase. Il va y avoir la constitution d'un ensemble, peut-on dire, à la fois religieux et culturel, qui va être le fruit, n'est-ce pas, d'une alliance maintenant avec la culture germanique qui, à cette époque-là, envahit l'Europe tout entière. Et cette réalité va donner naissance, quelques siècles plus tard, à ce que l'on va appeler le Saint-Empire romain germanique, qui va naître avec Charlemagne, et dans lequel la papauté va jouer une part prépondérante. Elle sera, le Saint-Empire romain germanique sera un conglomérat d'États européens, théoriquement soumis à l'autorité de l'empereur et du pape. Il y a donc un pouvoir bicéphale qui va naître à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique. D'un côté, le pouvoir politique, et de l'autre côté, le pouvoir en principe spirituel, mais qui aura de plus en plus la tentation de jouer un rôle politique important. Et avec l'émergence du Saint-Empire romain germanique, la papauté deviendra, en dernier ressort, la véritable maîtresse de l'Europe. D'abord parce que, sur le plan politique, le Saint-Empire romain va être limité et un certain nombre de pays européens échapperont à son emprise, alors que la papauté sera l'élément unificateur de l'ensemble de l'Europe. Et c'est pourquoi, petit à petit, la puissance du pape va dépasser celle des empereurs eux-mêmes, et cela culminera avec la fameuse entrevue de Canossa, lorsque l'empereur d'Allemagne, Henri IV, dans la neige, pieds nus, en chemise, implorera le pardon du pape qui le lui refusera. Pour l'heure, nous n'en sommes pas encore là, mais il est certain que la constitution des États du pape, qui à l'époque sont encore relativement modestes, marque la première pierre dans cette construction qui aboutira justement à faire de la papauté la véritable maîtresse de l'Europe. Il faudra attendre les temps modernes, la Renaissance, puis la Réforme, pour que ce pouvoir commence à être ébranlé, et finalement que les États pontificaux se réduisent au minuscule État du Vatican, qui pour minuscule n'en est pas moins un véritable État, et n'en constitue pas moins une puissance politique importante. Et ainsi que le notait Musenberg dans ce livre auquel je faisais allusion, c'est le seul exemple qu'il y ait au monde d'une religion qui est également une assise temporelle, ce qui fait que cette assise temporelle, pour réduite qu'elle soit, donne à cette religion un avantage indiscutable et disproportionné sur toutes les autres, qu'elles soient chrétiennes ou non. pendant la guerre, Staline demandait combien de divisions avait le pape. En son temps, le pape a eu des divisions, il n'en a plus. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la puissance temporelle romaine continue à constituer un élément avec lequel il faut compter. Et Staline lui-même l'a appris à ses dépens. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce caractère temporel de la papauté quand nous avancerons dans notre étude du Moyen-Âge. Pour le moment, nous la laissons de côté pour venir à l'Orient. Pendant que ces événements se déroulaient en Occident, que se passait-il en Orient? Eh bien, l'Orient était marqué par une double évolution. Premièrement, les controverses doctrinales qui avaient commencé avec, on peut dire, l'avènement de Constantin, vont se poursuivre. Et l'Orient, à la fin du VIe siècle, va se trouver profondément divisé sur le plan religieux, dans des querelles théologiques et des controverses théologiques interminables et insolubles. Et cette division du christianisme en Orient aboutira à une véritable désintégration du christianisme. D'abord, le concile de Chalcédoine, qui avait voulu mettre un point final aux controverses christologiques, en réalité n'a rien réglé du tout. Lorsque Justinien meurt, eh bien, tout ressurgit, tout le problème ressurgit. Et c'est alors que le successeur de Justinien a la sagesse de déclarer que il est incompétent, lui, empereur, pour régler ce genre de querelle doctrinale et qu'elles sont, en dernier ressort, l'affaire de l'Église. Que les théologiens, que les dignitaires de l'Église trouvent une solution et vite. Pour ce faire, le nouvel empereur, qui se nomme Justin II, ordonne un patriarche, nouveau patriarche de Constantinople, qui se nomme Jean II. La tâche du malheureux patriarche n'est pas facile. Et elle est d'autant moins facile que peu de temps après, Justin devient fou, ce qui n'arrange rien. Tant et si bien que c'est l'impératrice, qui se nomme Sophie, qui, en fait, va prendre les rênes de l'État. Et le patriarche Jean II obtient de cette dernière, en 571, l'impératrice, donc le pouvoir, déclenche une persécution contre les monophysites. Est-ce que parce que c'était une femme qui était au pouvoir, toujours est-il que ce sont les femmes qui sont l'objet essentiel de cette persécution et de nombreuses femmes monophysites sont arrêtées, emprisonnées et certaines exécutées. De ce fait, les monophysites quittent en masse les frontières de l'Empire devant ce déclenchement de persécution et se réfugient notamment en Arménie. C'est ainsi que l'Arménie, qui est, n'est-ce pas, un pays où l'Église officielle est une Église non chalcédonienne, une Église monophysite, n'est-ce pas, se trouve ainsi renforcée par cet afflux massif de monophysites qui viennent s'installer dans ce pays proche de Constantinople. Et cette Église arménienne, maintenant, va devant l'impossibilité de trouver une solution au conflit, maintenant va se constituer en église autonome à côté de l'église byzantine. Finalement, il y avait déjà eu une évolution dans l'église arménienne vers, n'est-ce pas, le schisme. Le schisme non seulement théologique, qui était déjà dans les faits existants, mais le schisme aussi sur le plan de l'organisation ecclésiale. Mais maintenant, devant la certitude que la querelle monophysite ne peut pas être résolue de manière satisfaisante pour les Arméniens, ces derniers, eh bien, vont se constituer en église autonome. Et c'est ainsi que le catholicos, comme on l'appelle, c'est-à-dire le patriarche arménien, n'est-ce pas, va maintenant, de son propre chef, ordonner des évêques en Arménie. Et ainsi, le schisme entre Byzance et l'Arménie est consommé et dure jusqu'à ce jour. Alors, voyez-vous, quand on parle de la réforme qui a déchiré la tunique sans couture du Christ, eh bien, vous voyez ce qu'il faut en penser. C'est ainsi que un certain nombre de cérémonies particulières, bon, il va y avoir une liturgie particulière qui va naître dans l'Église arménienne, qui sera totalement différente de celle qui existe dans l'Église byzantine et donc dans l'Église latine également. Et quelques années plus tard, en 540, la Syrie suit le même exemple. Naît une église qui s'appelle l'église syrienne monophysite, non calcédonienne, qui est davantage connue sous le nom d'église jacobite, parce qu'elle se réclame d'un certain Jacob, n'est-ce pas, qui en a été l'organisateur et le fondateur. Cette église existe jusqu'à ce jour. Et ainsi, n'est-ce pas, il y a aussi tout un conflit au point de vue, si vous voulez, de la langue, de la liturgie, tout cela, parce que les Syriens utilisaient une langue qui était proche de l'araméen, qu'on appelle le syriaque, justement, qui a été la langue officielle des églises jacobites jusque pratiquement notre époque, jusqu'au moment où elle a suivi un peu l'exemple de Rome, qui a abandonné le latin au profit des langues qui étaient les plus comprises par le peuple, en l'occurrence l'arabe, puisque les églises jacobites se recrutent essentiellement, n'est-ce pas, en Orient, dans les pays arabes. Donc, l'église jacobite, et puis ensuite naît une autre église aussi autonome, non chalcédonienne, l'église copte égyptienne. Alexandrie, n'est-ce pas ? À Alexandrie, il y a un certain nombre de gens, en effet, qui ne peuvent admettre les conclusions du concile de Chalcédoine, et un conflit extrêmement vif va éclater en Égypte. Et le christianisme égyptien va se trouver déchiré entre les Melkites, comme ils appellent, c'est-à-dire les partisans de l'empereur, de la religion officielle de l'empereur, c'est-à-dire de l'Église byzantine, et puis les monophysites. Et suivant cela, l'exemple de l'Arménie puis de la Syrie se constitue en Égypte une Église copte, c'est-à-dire égyptienne, non chalcédonienne, monophysite. On sait qu'il y a toujours eu des relations étroites entre l'Éthiopie et l'Égypte, et par conséquent, en Éthiopie, l'Éthiopie qui est une église nationale, eh bien, refuse en bloc les conclusions du concile de Chalcédoine et se constitue, à l'exemple de l'Arménie, en église nationale monophysite. Jusqu'à aujourd'hui, l'église copte et l'église éthiopienne sont des églises non chalcédoniennes. C'est bien qu'aujourd'hui, ces quatre églises continuent à exister comme étant monophysites. L'église arménienne, l'église jacobite, l'église copte égyptienne et l'église éthiopienne. Et alors, le schisme est consommé d'une manière totalement irréversible. Tant et si bien, encore une fois, que la robe sans couture du Christ, comme on dit aujourd'hui, eh bien, elle est déjà au moins quatre fois déchirée. Puis apparaît une autre église, parce que là, les schismes éclatent donc de tous les côtés, n'est-ce pas, quand l'exemple est donné, ça suit. C'est l'Église nestorienne, qui alors, elle, est une Église qui refuse, n'est-ce pas, la conclusion non pas de Chalcédoine, mais d'Éphèse, et qui va croître aussi, se développer en Orient. Bien évidemment, l'empereur ne peut pas accepter cette situation et la persécution s'abat sur les églises qui sont à l'intérieur de l'Empire, à l'exclusion bien sûr de l'église éthiopienne et de l'église arménienne qui sont situées en dehors des frontières de l'Empire. Beaucoup, notamment de Nestoriens, vont se réfugier en Perse, précisément de façon à pouvoir échapper à la persécution impériale. Plusieurs sont convertis de force, ramenés de force dans l'orthodoxie, et ceux qui, après avoir abjuré leurs erreurs, retombent dans ces erreurs, sont passibles de mort, comme ça sera en Occident au Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Ce sont des renégats qui sont ainsi alors exécutés. Bien, à côté de ces églises, disons, monophysite, hérétique, etc., encore que ce genre d'hérésie, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose, comme on dirait aujourd'hui, une différence séparatrice. Il est tout à fait intéressant de constater qu'à cette époque, fin du VIe siècle, il y a eu, comme à toutes les époques, on peut dire des communautés, des églises, des assemblées, qui ont été composés de chrétiens fidèles, de chrétiens, on pourrait dire, évangéliques, si je vous dis. En effet, en dehors des querelles doctrinales qui tournaient autour de la christologie, il y avait un autre problème qui avait surgi depuis la conversion de Constantin, c'était la question des rapports entre l'Église et l'État. Si la majorité des Églises avait accepté sans trop de difficulté cette mainmise de l'État sur l'Église et en même temps sa protection, parce que l'Église y trouvait des avantages indiscutables, il y avait un certain nombre de chrétiens qui avaient refusé, depuis le IVe siècle, qui avaient refusé, n'est-ce pas, cette subordination de l'Église à l'État. Et ça et là, depuis le IVe siècle jusqu'à la Réforme, ont existé dans l'Église officielle, en marge de ces églises officielles, des courants qui ont rejeté les rapports entre l'Église et l'État, qui en même temps donc ont été amenés à rejeter les hiérarchies officielles et qui souvent ont présenté un visage beaucoup plus évangélique que celui que montraient les grandes églises. Et ces églises ont été bien évidemment l'objet de persécutions terribles. Bien plus terribles encore que les églises monophysites ou nestoriennes. Et non seulement elles ont été persécutées physiquement, si j'ose dire, mais on a cherché aussi à faire disparaître toute trace historique de leur existence. Parce qu'elles étaient un démenti cinglant de ce que l'on appelait à l'époque le triomphe de l'Église. Elles étaient une contestation permanente du pouvoir politique impérial et elles devaient être non seulement détruites, mais également ne pas pouvoir faire école. Donc il fallait faire disparaître non seulement ces gens, mais également leur propagande, leur influence et donc leurs écrits. Et pour ce faire, il y avait deux moyens. Le premier, c'était de les poursuivre et quand on tombait sur des écrits qui étaient les leurs, de les détruire, de les brûler, etc. Et puis il y avait un autre moyen, c'était, pour contrecarrer leur propagande, de les diffamer et de les calomnier. Et c'est ce qui a été fait tout au long de l'histoire, jusqu'à l'époque de la Réforme. Si bien que l'histoire de ces groupes est extrêmement difficile à retracer, parce que les documents qui nous parlent de ces gens-là ont pratiquement disparu, et les seuls documents que nous ayons entre nos mains sont ceux de leurs adversaires, et qui sont par conséquent non seulement défavorables, mais carrément mensongers. Je prends un exemple. À partir du IVe siècle, on entend parler des hérésies manichéennes. Les hérésies manichéennes, on les connaît, c'était des hérésies qui étaient venues de Perse et qui étaient l'expression justement de l'antique religion de la Perse qui prônait l'existence de deux dieux, le dieu du bien, le dieu de la lumière, et le dieu du mal, le dieu des ténèbres, qui étaient de forces égales et qui combattaient. Par conséquent, le but du croyant était de prêter main forte au dieu de la lumière de façon à ce qu'il puisse vaincre le dieu des ténèbres et que ainsi le bonheur, la paix et la bénédiction puissent venir sur la terre. Et il est vrai, des gens, des chrétiens qui ont adopté peu ou prou ces vues, savoir que le dieu de la Bible apparaissait comme le dieu de la lumière et Satan, un véritable dieu des ténèbres. Non pas, comme le dit la Bible, un ange déchu, qui était en dernier ressort soumis à la puissance de Dieu, mais un être qui était de la même nature que Dieu et qui était donc en mesure de lui contester sa puissance et son pouvoir. L'Église catholique et l'Église orthodoxe, avec raison, ont dénoncé, n'est-ce pas, cette doctrine comme une hérésie. Mais il est clair, lorsque on entend parler jusqu'à cette époque, depuis le IVe siècle, de sectes manichéennes, n'est-ce pas, que tous n'étaient pas des manichéens. Et que parmi ceux qui étaient ainsi accusés d'être des tenants de l'hérésie manichéenne, il y avait des gens qui manifestement n'en étaient pas. Comment le sait-on? Pour deux raisons. D'abord parce qu'eux ont toujours nié avec la plus extrême vigueur être des manichéens, même lorsqu'ils étaient conduits au supplice et au tourment. Et puis deuxièmement, parce que ça et là tout de même, l'essentiel de leur doctrine nous est évoqué. Ainsi, tous ces groupes sont qualifiés du terme infamant de secte, ce qui montre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Et à cause de cela, il est nécessaire, disent les empereurs et les prêtres, de détruire toute la littérature de ces sectaires, de ces hérétiques, et en même temps de combattre leur doctrine. Nous entendons parler, à côté des sectes manichéennes, de deux autres sectes, je mets sectes bien sûr entre guillemets, ce que l'on appelle les églises pauliciennes, et puis aussi ce qu'on appelle les églises de Thoméac. C'était des groupes que l'on trouve essentiellement en Asie mineure, en Arménie, et qui pouvaient même aller jusqu'à l'Euphrate. Ces deux groupes semblent avoir été très proches, bien que différents, dans leur origine, vraisemblablement.
Comment décrivez-vous le deuxième?
Oui, alors, Thomeack. Alors, ce qui était le point commun de ces gens, c'était qu'ils rejetaient la compromission avec l'État. Et ils avaient une critique extrêmement vive de l'institution ecclésiastique de leur époque. Ils affirmaient que les églises de leur temps, l'Église orthodoxe était une Église qui, par sa compromission avec l'État, était en fait devenue une prostituée, qu'elle n'était plus la véritable Église parce que ses compromissions avec l'État l'avaient conduite à des hérésies, l'avaient conduite à un état spirituel et moral lamentable, et que les choses étaient arrivées à un point tel que ces groupes refusaient même d'être appelés Église, tant ce mot, pour eux, avait perdu sa signification. Bien que ce soit un mot biblique, ils le récusaient à cause justement de toute la connotation qu'il y avait en raison de la situation spirituelle et morale de l'Église de leur temps. Et ils préféraient substituer, n'est-ce pas, à ce mot « Église » des mots comme « communauté »,« assemblée », etc., etc., ou même tout simplement, c'est un mot qu'on pourrait traduire par « congrégation ». Et ces gens-là affirmaient que la seule source d'autorité était l'autorité de l'Écriture sainte et de l'Écriture sainte seule. Alors c'est pourquoi ces groupes sont extrêmement intéressants à notre point de vue, parce que, bien évidemment, on reconnaît là des gens qui sont tout à fait proches de nous. Il y avait également un certain nombre d'autres points qui nous les rendent aussi tout à fait sympathiques. Ils estimaient, en effet, que l'Église, ce qu'ils refusaient d'appeler Église, enfin la communauté chrétienne, n'est-ce pas, devait être une communauté composée de gens qui avaient vraiment le désir de marcher avec Dieu, qui avaient vraiment le désir de mener une vie sainte. Et ils s'attachaient donc à exclure du milieu d'eux tous ceux qui ne marchaient pas selon l'enseignement de l'Écriture sainte. Et c'est cet idéal d'une Église sainte qui les a conduits à rejeter ce qui était alors quelque chose d'universellement admis, le baptême des enfants. Et c'est parce que justement ils rejetaient le baptême des enfants, qui avait pris à l'époque un caractère sacramentaire, que la persécution a été la plus vive. Or, non seulement ils rejetaient le baptême des enfants, mais également ils rejetaient de la Sainte Cène, de la possibilité de s'approcher de la Sainte Cène, tous ceux qui ne menaient pas une vie sainte et une vie droite avec le Seigneur. Il semble que la structure de ces églises ait été assez lâche. Elle semble, je dis bien, elle semble, parce que là, encore une fois, les sources ne sont pas suffisamment précises et on a parfois tendance, les historiens qui se sont penchés sur ces groupes-là sont souvent des, bien entendu, vous le comprenez, des historiens évangéliques, et parfois on a un peu tendance à plaquer sur ces gens-là peut-être des idées évangéliques qui n'étaient peut-être pas tout à fait les leurs à cette époque-là, quoi. C'est-à-dire, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse et vouloir trop récupérer ces gens-là, quoi. Vous comprenez, il faut garder un petit peu la mesure. On ne sait pas, en fait, quelle était la structure de ces églises. La plupart des historiens évangéliques qui se sont intéressés à eux pensent que c'était des églises de type congrégationaliste. Personnellement, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été aussi congrégationalistes que cela, parce qu'il y a au milieu d'un certain nombre de figures que nous allons évoquer qui semblent avoir joué des rôles extrêmement importants, qui étaient réellement des leaders et qui, ce faisant, avaient certainement une autorité. Donc, il devait y avoir, contrairement à ce que l'on en dit, une certaine notion du ministère et une certaine reconnaissance des ministères à l'intérieur de ces églises-là, à l'intérieur de ces groupes. Or, ces groupes se sont répandus, malgré la persécution dont ils étaient l'objet, assez rapidement et d'une manière assez importante, notamment en Asie mineure, disons tout à l'heure, en Arménie, et puis ensuite même jusque dans la région de l'Euphrate. Bon, la persécution s'est très vite déclenchée en ce qui les concernait, et c'est ainsi que on a entendu parler d'eux essentiellement à cause des procès qui ont été intentés à certains membres de ces églises. Parmi eux, il y avait un certain Constantin, qui s'était converti, qui était un athée. Constantin, c'était justement la raison pour laquelle il ne voulait pas croire, il ne voulait pas se convertir, c'était justement parce qu'il voyait, n'est-ce pas, toute cette compromission qu'il y avait dans l'Église de son temps, l'état spirituel et moral qui lui faisait douter de la réalité du christianisme. Et soudain, voilà que cet homme découvre, selon ce qu'il dira lui-même dans son procès, à l'occasion de son procès, voilà que lui-même découvre des gens qui vivent réellement l'Évangile. Alors il est touché dans son cœur et il se convertit. Et il semble qu'un des principes de ces églises pauliciennes, comme on les appelle, c'était que lorsque quelqu'un se convertissait, donc il était baptisé en tant qu'adulte, et il changeait de nom. Il adoptait un nom nouveau. Et c'est ainsi que Constantin a pris le nom de Sylvain, qui était un des compagnons de Paul. Il s'est converti en 653 et il a exercé un ministère pendant un certain nombre d'années jusqu'au moment où il a été inquiété. Il a été inquiété par le pouvoir pour une raison très simple, c'est qu'il a refusé d'adorer les images, les icônes et les statues qui commençaient à cette époque-là dans l'église byzantine à jouer un rôle extrêmement important, qui défraira la chronique quelques temps plus tard, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir lorsque nous parlerons de la fameuse querelle iconoclaste. Mais déjà, on peut dire que Sylvain, alias Constantin, était déjà un iconoclaste avant la lettre. Et c'est ainsi que, pour échapper à la vindicte de l'Église, il se réfugie en Arménie. L'Arménie, qui, ainsi nous l'avons vu, était monophysite. Lui-même n'était pas monophysite, mais il y avait une certaine tolérance là-bas pour des groupes de ce type qu'il n'y avait pas dans l'Empire byzantin lui-même. Là, il va commencer à évangéliser. C'est un évangéliste certainement de grande envergure, car à la suite de son travail d'évangélisation vont naître de très très nombreuses communautés. En 684, monte sur le trône de Byzance un nouvel empereur, Constantin IV, qui, lui, est résolu à régler leur compte à ces congrégations indépendantes qui ne reconnaissent pas le pouvoir de l'empereur. Et il va charger un prêtre du nom de Siméon d'organiser cette lutte qu'il veut être une lutte à mort contre les communautés. Or, Sylvain, s'il réside essentiellement en Arménie, donc hors d'atteinte du pouvoir byzantin, voyage beaucoup. Il voyage non seulement pour évangéliser, mais il voyage aussi pour édifier les communautés qu'il a ainsi créées. Et pour cela, il accomplit ce que l'on pourrait dire être un travail d'apôtre. Ce qui fait que je doute, comme je disais tout à l'heure, que dans ces églises-là, il n'y ait pas eu de reconnaissance des ministères. Et c'est ainsi que, alors qu'il est en train de visiter des communautés qui se trouvent donc à l'intérieur de l'Empire byzantin, il est arrêté. Il est arrêté par Siméon lui-même. Il est arrêté avec un certain nombre de ses disciples, que les textes de l'époque appellent des disciples, mais qui étaient certainement des jeunes qui étaient en train de former pour le ministère. Et Siméon se livre à une violente attaque contre Sylvain en présence de tous ces jeunes qui sont là, et il lui fait savoir qu'au nom de l'empereur, il est donc passible d'une sentence de mort, et qu'il va donc être exécuté conformément à cette sentence pour avoir outrepassé les ordres de l'empereur, et notamment pour avoir refusé, encore une fois, d'adorer les images. Et pour mieux déconsidérer Sylvain, Siméon ordonne aux disciples, aux quelques dizaines de disciples qui sont là, de prendre des pierres et de lapider leur maître, sous peine d'être eux-mêmes mis à mort. Et il distribue à chacun de ces jeunes gens des pierres afin qu'ils le lapident. Alors, tous les jeunes disciples qui sont là disent qu'ils préfèrent la mort plutôt que de porter la main sur celui qu'ils respectent, et chacun laisse tomber sa pierre par terre. Il n'y a parmi eux qu'un seul, qui s'appelle Justus, qui lui prend la pierre qu'il avait dans la main et la jette à la tête de Sylvain, qui meurt sur le coup. C'était un véritable renégat, un véritable traître. Bien entendu, pour Siméon, eh bien, c'est au contraire un héros. Il est ramené en grande pompe à Constantinople, et pendant que ses camarades sont emprisonnés en attendant leur exécution, Justus, lui, est promené comme un véritable héros, comblé d'honneur, n'est-ce pas, par l'empereur lui-même. Il n'empêche que Siméon n'est pas très à l'aise en face de cette de cette affaire, il se rend bien compte qu'il a agi comme un lâche, en fin de compte, et il se souvient, il a été fort impressionné d'abord par le courage et la dignité de Sylvain, et aussi par le courage et la dignité des autres jeunes qui ont refusé donc de porter la main sur leur maître. Et c'est ainsi que Siméon entre dans une véritable crise de conscience profonde, il se replace devant Dieu et finalement arrive à la conclusion que ces gens-là sont dans la vérité. Ces gens qu'il a persécutés sont dans la vérité. Et à l'insu de l'empereur, il se rend donc vers ceux qu'il connaît fort bien, parce qu'il les a répertoriés, et puis déclare qu'il se repent d'avoir agi comme il l'a fait, et qu'il veut se convertir. Il est donc baptisé par immersion. Et selon la coutume qui existe dans ces milieux-là, il prend le nom de Tite. Et c'est ainsi qu'il prend la suite du travail de Sylvain qu'il a lui-même exécuté. C'est en quelque sorte un petit peu une certaine réédition de l'Odyssée de l'apôtre Paul, n'est-ce pas ? Et lui aussi va devenir alors là un apôtre infatigable. Qui à la fois évangélise, comme l'avait fait Sylvain, et à la fois édifie les communautés que Sylvain a créées, puis celles qui vont naître à la suite de son travail à lui d'évangélisation. Seulement, Tite a un adversaire implacable qui n'est autre que Justus, justement. Justus, le traître, celui qui a tué Sylvain, qui, lui, bien entendu, ne peut admettre la conversion de Siméon, alias Tite, et qui va alors faire en sorte que ce dernier soit inquiété. Justus, après la défection de Siméon, est tout simplement nommé à sa place, et comme il connaît fort bien ses anciens coreligionnaires, c'est lui qui est chargé de les traquer. Et une véritable chasse à l'homme commence entre Siméon, qui connaît les ficelles du métier parce qu'il en a été, et Justus qui les découvre. Et c'est ainsi que Siméon non seulement va être persécuté, mais sera finalement rejoint, et puis finira lui aussi martyr, persécuté. Mais il a eu le temps de créer un grand nombre de communautés. Il sera très actif. Et son martyr qui va avoir lieu par le feu, qui sera brûlé vif, eh bien, va extrêmement impressionner ceux qui vont en être les témoins. Il est arrêté, en effet, avec aussi une foule de jeunes, et il va y avoir tous ces gens-là vont être livrés au feu, livrés aux flammes, à la mort, parce que l'empereur pense que réprimant l'hérésie par la terreur, il va l'éradiquer. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Et de nombreux orthodoxes vont se tourner vers cette foi-là, vont demander à être baptisés, et les communautés vont continuer à se développer. Bien évidemment, l'empereur va réagir, et beaucoup vont être amenés à s'expatrier, soit dans l'Empire perse, soit en Arménie, soit en Éthiopie, n'est-ce pas, dans les endroits qui sont inaccessibles à l'empereur. Et elles resteront là-bas, elles demeureront jusque pratiquement la conquête islamique, et on perd leurs traces à partir justement de la conquête islamique. Est-ce qu'elles ont continué à exister à cette époque-là ou non, c'est difficile de dire, n'est-ce pas. Mais en tout cas, il y a là une épopée de la foi qui est tout à fait intéressante et tout à fait magnifique à une époque où le christianisme, comme nous disions tout à l'heure, notamment en Orient, tombe dans une véritable décadence, parce que la situation va très rapidement se révéler comme étant une situation catastrophique. Le règne de Justinien avait été, disons-nous, l'âge d'or de Byzance, un temps de paix, sauf si on accepte la révolte des Samaritains qui aura lieu en 529. Et de ce fait, l'Empire et l'Église impériale connaîtra aussi, au point de vue faste, au point de vue richesse, au point de vue influence et pouvoir, son apogée. Si bien que la façade est magnifique, l'Empire se couvre de basiliques, d'édifices religieux splendides, n'est-ce pas ? Mais en même temps, n'est-ce pas, c'est une période aussi de décadence. Le monachisme aussi se développe très fort sous le règne de Justinien, et c'est ainsi que l'on dénote, par exemple, rien qu'en Israël, 10 000 moines qui peuplaient à cette époque la Terre Sainte, mais il faut toutefois préciser que parmi eux, il y avait un bon nombre de monophysites. En 570, nous avons le rapport d'un pèlerinage en Israël qui a été effectué par un anonyme, qui venait de la ville de Plaisance, côté de Paris, si bien qu'on l'appelle tout simplement l'anonyme de Plaisance, et qui nous parle de cette situation du monachisme en Israël, qui était extrêmement nombreux, c'est lui qui nous donne ces détails. Il nous dit aussi que la situation de ces moines n'était pas toujours facile, dans ce sens que souvent, ils étaient attaqués, pillés, voire massacrés par les bédouins du désert. Mais c'est aussi l'époque où le monastère de Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï, enfin de ce que l'on donne comme étant le mont Sinaï, devient un grand centre de spiritualité qui a l'appui de l'empereur, qui a des esclaves fournis par l'empereur qui sont mis à sa disposition, disposition des moines, pas très évangélique, bien évidemment. Et c'est aussi l'époque où se développe une liturgie extrêmement fastueuse qui est jusqu'à aujourd'hui la base de la liturgie orthodoxe, de l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe grecque et l'Église orthodoxe russe. La musique occupe une grande place, le chant. Il y a le même phénomène, si vous voulez, que celui qui se produit en Occident à la même époque, c'est-à-dire qu'en Occident, il y a le développement du grégorien, le chant grégorien, tandis qu'en Orient, on a le développement de ce que l'on va appeler, jusqu'à aujourd'hui, la divine liturgie. Et ce sont des chants stéréotypés, n'est-ce pas, qui sont chantés aujourd'hui dans la plupart des églises orthodoxes et dont certains remontent à cette période-là. C'est aussi l'époque où le patriarcat d'Antioche est traversé aussi par des difficultés qui vont conduire à sa chute quelques dizaines d'années plus tard. En 512, un certain Sévère devient archevêque d'Antioche. Mais lorsque, en 518, quelques années plus tard, Justinien monte sur le trône impérial, il n'a rien de plus pressé que de destituer Sévère, soupçonné d'hérésie. Seulement, le nouveau patriarche qui est nommé par l'empereur n'est pas accepté par la population. La population d'Antioche, qui se considère comme étant l'un des plus vénérables patriarcats de la chrétienté, n'accepte pas l'hégémonie de Constantinople, n'accepte pas non plus les nouvelles orientations liturgiques, n'accepte pas la langue grecque, mais tient à rester fidèle à la langue syriaque, si bien que la majorité de la population d'Antioche penche en direction du monophysisme. Et c'est ainsi que, lorsque le nouveau patriarche, qui lui est vraiment orthodoxe, est nommé par l'empereur, eh bien, ça provoque des émeutes impossibles à Antioche, qui aboutissent au bout de quelques mois à l'écroulement du patriarcat lui-même. Et dans la situation est bloquée, Sévère est récusé, excommunié par l'empereur, et les nouveaux candidats au patriarcat qui sont proposés sont systématiquement refusés par la population. Donc la situation aboutit à une anarchie totale. Finalement, le peuple acclame, n'est-ce pas, comme patriarche, un certain Jacques, qui est un monophysite, et qui va organiser cette église monophysite de Syrie dont nous avons parlé il y a quelques instants. D'où le nom de Jacques le Bible qui est donné à cette église. En 539, il y a un légat qui est envoyé dans cette région pour essayer de trouver une solution qui se nomme Éphrem et qui en fait est le véritable candidat de l'empereur pour le patriarcat d'Antioche. Hélas, au moment où il arrive à Antioche, se produit une catastrophe, un tremblement de terre qui détruit la cité. Tant et si bien qu'il y a des problèmes beaucoup plus urgents à résoudre que celui d'arbitrer le conflit entre les deux candidats patriarches. Et l'arrivée, la démarche d'Éphrem n'aboutit pas. En réalité, le cataclysme est tellement sévère que la cité elle-même ne s'en remet pas. Dans ces années-là, la traduction de la Bible en syriaque, la langue de la Syrie dans la région d'Antioche, est achevée. Et c'est ce qui fait que le schisme est totalement consommé, dans la mesure où maintenant l'Église jacobite a sa propre écriture sainte, qui maintenant fait autorité pour elle, et refuse, n'est-ce pas, de revenir à la Bible des Septante, à la Bible grecque, que l'on veut chercher à lui imposer. Voyez-vous, c'est des querelles liturgiques qui nous semblent vraiment ténues, parce que c'était le même texte biblique, mais c'était des raisons qui faisaient qu'il y avait, pour des questions de ce type-là, des cassures. Alors voyez-vous que, à côté de ça, les querelles de la Réforme, ça paraît sur un autre monde. En fin de compte, Sévère meurt en 463, en 563. Et puis, il y a la coexistence d'une grande église monophysite avec une petite église melkite, dans une tension permanente, non seulement une tension permanente, mais une véritable guerre, avec des émeutes, avec des morts, avec tout, qui va aboutir à une véritable anarchie politique. Et ce qui se passe à Antioche est ce qui se passe un peu partout. Quand je dis un peu partout, je dis l'Égypte, on en a parlé tout à l'heure, Alexandrie, c'est exactement le même scénario, et puis surtout en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, qui elle aussi est maintenant atteinte par l'hérésie monophysite, et cette hérésie monophysite a conduit à des cassures, n'est-ce pas, incroyables, des querelles, des batailles, des émeutes, des morts, n'est-ce pas, si bien que la situation aboutit dans tout ce qui est justement la côte de l'Afrique, la Syrie, la terre d'Israël, et une partie des Balkans, n'est-ce pas, c'est un état d'anarchie endémique qui s'installe à la fin du VIe siècle. Et ceci vous explique comment, quelques années plus tard, quand les musulmans, quand l'islam va apparaître sur la scène de l'histoire dans cette région, eh bien, ces régions vont tomber comme des frimures entre les mains des musulmans, incapables de se défendre, parce que vivant dans l'anarchie la plus complète. Les groupes monophysites persécutés par la Grande Église verront souvent dans les musulmans des libérateurs. Ils les accueilleront avec joie quand ils ne les appelleront pas au secours, comme ça va se produire en Afrique du Nord et en Égypte, n'est-ce pas ? Et comme, à cette époque-là, on n'enseigne plus dans les églises, qu'elles soient monophysites ou la parole de Dieu, parce que le but des églises n'est plus, n'est-ce pas, d'édifier les fidèles dans la foi et dans la marche avec Dieu, le but de l'église, c'est de combattre l'autre partie. Les prédications ne sont plus des prédications, ce sont, n'est-ce pas, des controverses contre les thèses de la partie adverse. Quand ce ne sont pas des exhortations à aller piller, massacrer et mettre à mal les gens de la partie adverse. Alors, la parole de Dieu n'est plus enseignée. Les gens n'ont plus aucune connaissance biblique. Et comme l'islam est une doctrine qui fait référence à Jésus-Christ, qui fait référence au Dieu d'Israël, qui fait référence à Abraham, qui fait référence aux prophètes, les gens n'ayant plus aucune connaissance biblique se disent, après tout, pourquoi ne pas adopter l'islam? Ils ont l'impression, finalement, qu'ils ne trahissent pas la foi qui leur a été enseignée, mais qu'ils en adoptent une autre forme. Il y a tellement de formes, déjà, diverses de christianisme qui existent autour d'eux, qu'ils se disent, après tout, pourquoi pas celle-là plutôt qu'une autre, du moment qu'on va avoir la paix. Et c'est ainsi que la pénétration de l'islam va être rendue possible par cette désintégration, n'est-ce pas, du christianisme en Orient. Je crois que cette situation, eh bien, est à prendre aussi en compte un petit peu, je dirais, aujourd'hui. Parce que, finalement, nous trouvons une situation qui ressemble un peu à celle-là. Non pas qu'on soit à se battre, etc., des choses comme ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je veux dire, il y a un affaiblissement de la foi. Il y a un affaiblissement de la foi considérable dans nos pays occidentaux, en sorte qu'il y a un vide spirituel. Et c'était le cas en Orient à cette époque-là. Il y avait un véritable vide spirituel, car il y avait ceux qui étaient devenus tout à fait sceptiques. Bon, aujourd'hui, on est sceptiques pour d'autres raisons, à cause de l'influence de la science, de la technique, etc. Mais voilà que, en face de ce vide spirituel, apparaît une religion nouvelle qui prétend, n'est-ce pas, être l'héritière des deux autres et en même temps apporter une réponse à ce vide spirituel et qui va trouver un terroir bien préparé dans lequel elle va pouvoir s'implanter. Je ne sais pas si l'islam qui entend profiter de cette situation aujourd'hui va pouvoir réussir la même opération dans nos pays occidentaux, j'en doute. En tout cas, il est certain que l'islam pense avoir retrouvé là la même situation historique. Il n'y a pas que l'islam. Il se pourrait fort bien qu'il y ait une spiritualité nouvelle, n'est-ce pas, qui profite aussi de ce vide spirituel pour essayer de s'implanter. Et c'est pourquoi nous sommes dans une situation critique qui ressemble, n'est-ce pas, à cette situation-là. Ces gens n'avaient plus aucune raison de se défendre. Ils n'avaient plus aucune force spirituelle, morale, et même, je dirais, politique, la moindre volonté politique de se défendre parce qu'ils étaient complètement lessivés, n'est-ce pas, par cette situation-là. Bien sûr, l'histoire ne se répète pas. Et la situation actuelle dans nos pays, autrefois chrétiens, n'est plus exactement la même. Mais la disparition, en l'espace de quelques années, de ces chrétientés qui remontaient aux origines, qui avait produit les pères de l'Église, n'est-ce pas, les plus grands, les Tertulliens, les Origènes, etc., les Eusèbes et tout ça, eh bien, qui disparaissent, n'est-ce pas, en l'espace d'une génération. En l'espace d'une génération, le christianisme dans ces pays-là va être complètement lessivé. Enfin, presque complètement. Eh bien, je crois que ça, c'est quand même un phénomène qui interpelle. C'est un phénomène historique, n'est-ce pas, qui ne peut pas être ignoré. À partir du moment où il y a un vide spirituel, il y a une fragilisation totale de la société, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur tous les plans. C'est pourquoi la situation de nos pays occidentaux aujourd'hui, si on la lit à la lumière justement de tels événements, c'est une situation aussi qui est extrêmement préoccupante. Encore une fois, l'histoire ne se répète pas toujours, et sinon, je ne pense pas que l'islam réussira à combler ce vide. Mais peut-être que d'autres seront tentés de le faire. Bien, est-ce que vous avez quelques questions à poser ?